exoplanètes, des planètes en dehors du système solaire, eh ben, on pourra jamais y aller.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le pas de tir de Zoom Zoom Zen. En cette journée spéciale, France Inter explore l'univers, la fine fleur de l'aérospatiale est là. Quentin Luy, Cyril Lacarrière, la Marianoche, exceptionnellement sobre devant l'ampleur de la mission. Même notre réalisateur Ghislain Fontana a interrompu son viaduc de mai qu'il faisait entre le lundi de Pentecôte et le jeudi de l'Ascension pour être présent aux manettes. Et vous, êtes-vous prêts?
Nous sommes go pour la mise à feu. H-7.
Et oui, beaucoup d'émotions pour les Lacar 12 restés au sol et qui voient la fusée Zoom Zoom Zen s'envoler, d'autant que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu de fusée s'envoler. Mais vers où? Eh bien, vers notre thème du jour, les exoplanètes. Ces planètes situées en dehors de notre système solaire et dont certaines, par leurs caractéristiques, pourraient abriter une forme de vie. On a d'ailleurs capté un signal prometteur hier, ici même, dans ce studio, quand soudain, en plein milieu d'une émission de qualité, saluée, rappelons-le, par Télérama, on a entendu ceci. Très bien, merci encore. Les extraterrestres ont-ils tenté de rentrer en contact avec nous? Bien, juste Quentin et l'invité qui avait bu un coup de trop. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
En cette journée spéciale France Inter explore l'univers, vous vous en doutez, on en parle depuis si longtemps ici, l'occasion était trop belle. Bonjour Thomas Pesquet, comment allez-vous depuis le temps qu'on essaye de vous avoir dans Zoom Zoom?
Ça va très bien, merci.
Super, mais en fait non, c'est juste un son qu'on a chopé sur BFM, il a encore dit non une fois de plus. Mais tant pis pour lui car on a beaucoup mieux, on a Yaël Nazé. Bonjour Yaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes astrophysicienne, maître de recherche au fonds de recherche scientifique à l'université de Liège et spécialiste des étoiles massives, vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous avez reçu le prix Jean Perrin de la Société Française de Physique en 2017 pour avoir contribué à la vulgarisation de vos recherches scientifiques. Votre dernier livre est passionnant, Explorer le ciel, les planètes et la Terre, les grandes expéditions des astronomes, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Vous allez nous aider à comprendre ces exoplanètes qui nous fascinent et dont on entend parler tout le temps sans y comprendre grand-chose, il faut bien l'avouer. Juste le temps de vous présenter mon équipage. Manon Mariani, Quentin Luy, au rapport.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour Thomas Pesquet.
Bonjour. Manon... Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ouais, on peut imaginer qu'il est là. Manon, il vous reviendra de nous parler de l'autre personne à suivre sur les exoplanètes.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas que Thomas Pesquet qui est un astronaute français de talent. Il y a aussi une astronaute dont on parle beaucoup et c'est d'elle que je vais vous parler en fin d'émission.
Quentin, pour ce micro-trottoir spécial exoplanète, la logique, le journalistique et même, je dirais, le simple bon sens aurait voulu que vous vous rendiez à Cap Canaveral ou à Starbase, le QG de SpaceX au Texas. Mais voilà, la logique, comme l'ont bien compris les agents du fisc qui gèrent votre redressement, n'est pas le point fort de Quentin qui, pour parler spatial, s'est donc rendu à Arles. Espérons qu'il a réussi à recueillir le témoignage du ponte de l'astrophysique français Chico, des Gypsy Kings.
Qui j'ai bu des coups, évidemment. Je me suis rendu à Arles, en Provence, pour discuter exoplanètes. À quoi ça sert de chercher des planètes qu'on ne pourra peut-être jamais atteindre? Pourquoi ça nous fascine? Sommes-nous seuls dans l'univers? Réponse à l'arlésienne dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, nous jouerons avec les ratés de la conquête spatiale. Toutes ces fois où une petite erreur humaine a fait foirer une mission qui se chiffrait en centaines de millions de dollars. Ce qui sera l'occasion de découvrir que Cyril a aussi bossé à la NASA. Enfin, émission plus risquée qu'une sortie extravéhiculaire pour lui en tout cas, un nouvel humoriste tentera de vous séduire, il s'appelle Yacine Bellous et d'après Benjamin Tranier il est formidable, enfin lui aussi il est formidable, après 17h nous serons rejoints par le seul, l'unique, le Michel Drucker. Ensemble nous reviendrons sur l'année 1982 et ce match terrible France-Allemagne qui, 43 ans après a encore arraché ses mots à Cyril ce matin, salaud de boche. Mais d'abord, Yael Nazé, est-ce que nous sommes aujourd'hui en train de repousser les frontières de l'univers et donc est-ce qu'on n'est plus très loin, finalement, de découvrir de la vie ailleurs que sur Terre?
Alors, en tout cas, on fait tout pour. On a un certain nombre de missions, que ça soit des missions qui vont regarder un petit peu pas trop loin, quoi, Mars ou Europe, enfin voilà, le système solaire, ou des missions qui observent des planètes très loin pour essayer justement de voir où on en est. Et bon, on avance, on progresse. On n'a pas encore trouvé de petits hommes verts.
On n'a pas encore trouvé ces foutus hommes verts.
C'est bientôt.
C'est un grand jour pour Cyril Lacarrière qui va rencontrer pour la première fois quelqu'un de plus vieux que lui, Michel Drucker. Il a tellement hâte, mais les exoplanètes, ça l'intéresse aussi. La preuve, Cyril, c'est vous qui allez nous raconter les exoplanètes, d'où ça sort.
Connaissez-vous cette phrase ? Mon vaisseau te mènera jusque sur une nouvelle planète. Ou encore, mon vélo te mène jusque sur un nez pointu. Ouais. Eh bien, ce sont deux des nombreuses phrases mémotechniques qui permettent de retenir le nom et l'ordre des planètes du système solaire. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Plouton. Je vois les yeux ébahis de Manon et Quentin.
Notre vie a changé.
Pluton n'est plus une...
C'était dans les années 80,
il faut retirer, Pluton.
Je la garde.
C'est plus une planète.
je ne suis pour la garder à elle.
C'est pas non, ma vieille tante Marie joue sur un nuage.
Ah, ça marche.
Ah,
ma vieille tante Marie joue sur un
Mais vous avez expulsé Pluton.
Ah oui,
bon, on a quand même
on les a modifiés.
Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Elle était là quand je suis arrivé, j'aimerais bien qu'elle reste.
Elle était là quand je suis arrivé.
Bref, tout ça pour dire que ces neuf planètes, elles étaient là avant qu'on en découvre d'autres, qu'on n'appellera pas des planètes, mais des exoplanètes. Tout commence en 1992. Ça fait 62 ans, donc, que Pluton a été découverte. Quand deux astronomes, le polonais Alexander Wolesam et le canadien Dale Frail, découvrent les deux premières exoplanètes. Elles gravitent autour d'un pulsar. Et là, évidemment, vous me demandez, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar ?
Oui.
Eh bien, ce sont des étoiles à neutrons qui brillent dans l'espace. Est-ce que j'ai raison, Yael ?
Oui, des cadavres d'étoiles, en fait.
Des cadavres d'étoiles. On doit la découverte du tout premier pulsar à Jocelyn Bell en 1967 dans la constellation du Petit Renard. C'est à plus de 2000 années-lumière du Soleil.
Mais c'est très joli par là-bas.
Et si je puis me permettre, on a donné le Nobel à son patron et pas à elle, alors que c'était elle qui avait fait la découverte.
Ouais. L'homme s'est encore accaparé la découverte d'une femme. 1992, Cyril, premières exoplanètes, mais c'est 3 ans plus tard que la recherche avance vraiment.
Grâce à deux Suisses, Michel Mayer et Didier Queloz, ils découvrent une planète autour d'une étoile qui répond au doux nom de 51 Pégase, située à seulement 50 années-lumière. Cette nouvelle planète est énorme, chaude et très proche de son étoile. Leur découverte leur vaudra aussi un prix Nobel de physique 24 ans plus tard, mais quand même un Nobel. Et puis ça s'accélère grâce au fameux télescope de plus en plus grand qu'on met sur pied. Imaginez un peu, il y a aujourd'hui plus de 5500 exoplanètes recensées. C'est incroyable quand on se souvient qu'il y a 30 ans, il y en avait zéro. Un foisonnement qui ouvre encore un peu plus la possibilité de découvrir de la vie ailleurs que sur Terre. Et c'est ce dont on va parler durant une heure.
Merci Cyril Yannès. Et pour faire très simple, très pédagogique, déjà c'est quoi une exoplanète ? C'est juste une planète qui est située en dehors de notre système solaire ou il y a d'autres caractéristiques ?
Alors typiquement, on a l'habitude de dire que les planètes tournent autour du Soleil, les exoplanètes tournent autour d'autres étoiles, puisque le Soleil, c'est juste une étoile parmi d'autres. Mais il y a des planètes aussi qui se baladent entre les étoiles, qui n'appartiennent pas à une
étoile. On les appelle les planètes nomades.
Oui, on les appelle des planètes nomades, effectivement.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est soit des petites planètes qui se sont formées in situ, donc directement, comme les étoiles. Pouf, ça y est, en plein milieu d'un nuage interstellaire, on forme un tas de trucs, et notamment, on peut former des grosses planètes. Ou alors, ce sont des planètes qui se sont fait expulser de leur système planétaire.
Alors, puisqu'on en a parlé, pourquoi Pluton a été expulsé
de la liste des planètes?
Oui. Alors, en fait, c'est une longue histoire. C'est simplement parce que quand on a commencé à regarder le système solaire, prenons par exemple entre Mars et Jupiter, on croyait pendant tout un temps qu'il y avait une planète. La première qu'on a... planète entre guillemets qu'on a trouvé là, qu'ils appelaient Cérès, on était tout contents, quoi. Et puis très vite on en a trouvé une deuxième, troisième, enfin on s'est rendu compte qu'il y avait plein de brôles entre les deux, et donc du coup on a dit ouais, c'est pas tous des planètes, il y en aurait trop à retenir, donc on va les appeler astéroïdes. Et puis Pluton est resté pendant un certain temps tout seul dans ce coin là et puis on s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul, et puis pareil quoi, on se commençait à en avoir plein, et donc on s'est dit et donc du coup pareil, on a commencé à se dire on va garder comme planètes celles qui sont un peu entre guillemets toutes seules, quoi, c'est-à-dire importantes sur leur orbite et qui sont pas dans une espèce de ceinture avec plein d'objets.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Vers l'infini et largement au-delà. Zoom Zoom Z, dans cette journée spéciale, France Inter explore l'univers, zoom plus spécifiquement sur ce qu'on appelle les exoplanètes, avec notre invité Yael Nazé. On est d'accord que toutes les exoplanètes ne sont pas forcément habitables, c'est vraiment une...
Non, tout à fait, même dans notre système solaire, il y a des trucs avec des atmosphères, il y en a sans atmosphère, il y en a des chaudes, il y en a des froides, il y a un peu de tout, quoi. Donc non, effectivement, toutes les planètes ne sont pas habitables, mais ça reste des planètes quand même, ou des exoplanètes, bien sûr. sûr.
Mais comment on les détecte, ces exoplanètes, au télescope? Comment on les trouve?
Alors, ce qui a permis d'en trouver le plus actuellement, c'est quelque chose de très simple. C'est, si vous imaginez, vous regardez une étoile, et puis il y a une planète qui passe devant, elle bloque un tout petit peu de la lumière, ça fait comme petite éclipse, ce qu'on appelle un transit. Et donc, on repère simplement la luminosité des étoiles qui chute à chaque fois que la planète fait un tour et repasse devant.
C'est bête comme chou, Manon.
On leur donne des noms.
Vous n'y avez pas pensé.
On leur donne des noms, oui. Souvent, soyons clairs, on est très inventifs, c'est-à-dire c'est le nom de l'étoile suivi d'un petit B pour la première, un petit C pour la deuxième, un petit D pour la troisième, etc.
Quentin ?
Où s'arrête notre système solaire et où commence celui des voisins, le plus proche ?
Ah, bonne question. C'est pas si simple que ça, en fait, de définir la frontière. L'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure, enfin le système d'Alpha du Centaure dont Proxima en fait partie, qui se trouve à 4 années-lumière, donc plus de 40 000 milliards de kilomètres quand même. Alors on peut se dire, au niveau gravité, si vous considérez ça, la limite, c'est la moitié, quoi. Donc on dirait 2 années-lumière. Maintenant, on a une sonde qui s'appelle Voyager, qui est à un jour-lumière, et elle est à la limite de ce qu'on appelle l'héliosphère, c'est-à-dire que notre Soleil, il pousse un vent, comme ça, vers l'extérieur, et ça vient cogner, évidemment, le milieu interstellaire. Et là, on a aussi toute une bulle qui est soufflée par le Soleil, et donc il est justement à cette frontière-là. Après, on peut prendre aussi le nuage de comète, si vous voulez, qui est entre les deux. Donc voilà, il y a plusieurs façons de définir, ça dépend vraiment ce que vous voulez prendre, mais en tout cas, on ne dépasse pas 2 années-lumière pour notre système solaire.
Alors, moi, je reviens à mon idée des exoplanètes qui seraient habitables. Pour qu'une planète soit habitable, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait de l'eau ? Ou est-ce qu'il peut y avoir de la vie sans eau ?
Le problème, c'est que quand le vocable habitable a été défini comme une planète qui n'était ni trop près, parce que sinon c'est trop chaud, ni trop loin, parce que là c'est trop froid, c'est juste dans une zone tempérée, où il y aurait probablement de l'eau liquide s'il y a une atmosphère, si la planète n'est pas trop grosse, etc. etc. Donc en fait, il y a plein de conditions supplémentaires, mais typiquement, quand on parle de planète habitable, on regarde juste est-ce qu'elle n'est pas trop près ou trop loin. Mais il faut aller plus loin, évidemment, pour savoir si elle est véritablement habitable.
Il y en a une qui intrigue, c'est K2-18b. Des chercheurs ont repéré le mois dernier des indices de vie, il ne faut pas l'appeler comme ça, non ?
Si.
K2-18b, oui. Si. Il y a un débat en ce moment au sein du milieu scientifique, mais d'abord, qu'est-ce qu'on sait sur K2-18b.
Alors en fait, la grande annonce qui a été faite, c'est juste une confirmation de l'annonce de l'année passée.
Ah bon, super.
Oui, je sais, ça arrive souvent, on fait des grandes annonces et puis c'est un peu moins spectaculaire en vrai. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont étudié l'atmosphère de cette planète et ils ont trouvé des molécules un peu particulières. Alors le problème, c'est que la signature, pour certains, elle n'est pas si claire que ça. Et puis d'autres disent, oui, mais cette fameuse molécule, peut-être qu'elle peut arriver naturellement par de la chimie planétaire classique sans qu'il y ait besoin d'avoir de la vie pour l'avoir. Donc il y a beaucoup de débats autour de ce qu'on appelle la question des biosignatures.
C'est quoi ça ?
Donc une biosignature, c'est ce qu'on détecte justement en étudiant une atmosphère et qui indiquerait sans ambiguïté qu'il y a de la vie sur cette planète.
Et ça, il n'y a aucune planète qui correspond à ça.
Celle-là, il y en a qui disent que oui, mais disons que tout le monde n'est pas encore d'accord. Donc c'est une question très compliquée, en fait, le cocktail chimique qui va véritablement dire qu'il y a de la vie. Surtout qu'il faut bien se rendre compte que la seule vie qu'on connaît, c'est nous, et qu'on a tendance à être un petit peu centré quand même, les terriens.
À imaginer la vie comme la nôtre.
Et voilà.
Alors qu'il y a une vie qui pourrait se développer selon d'autres critères, peut-être.
La vie pourrait être totalement différente.
Il y a plus de 7000 exoplanètes recensées, c'est deux fois plus qu'il y a 7 ans. Pourquoi on en découvre de plus en plus et surtout de plus en plus vite ?
Alors tout simplement parce qu'on a des missions dédiées ces fameux petites éclipses dont je parlais, on a des télescopes qui ne font plus que ça, qui passent des jours et des jours à scruter les étoiles et à repérer ce genre de choses. Donc c'est pour ça tout simplement.
Technologie qui s'améliore
Surtout la disponibilité de ces outils. C'est pas des outils qui sont nécessairement extraordinairement évolués par rapport à ceux dont on disposait il y a 10 ans, mais surtout, on les a, ces outils-là. C'est surtout ça, le truc, quoi.
Et je disais, toujours sur K2-18b, cette exoplanète, elle est relativement petite parce qu'elle mesure que 2,6 fois la taille de la Terre. C'est petit, ça, dans l'univers ? Pour une planète, c'est petit ? Nous, on a une planète miniature, alors, la Terre.
Alors, la Terre est clairement une petite planète. Si vous vous rendez compte, Jupiter, c'est 10 fois la Terre. Voilà.
C'est quoi la plus grosse planète qu'on a observée ?
Alors,
la plus grosse que Jupiter ?
Oui, parce qu'on a un gros problème de définition, de nouveau, de planète. On ne connaît pas très bien la limite entre planète et naine brune. Donc, la limite inférieure pour les étoiles, ça, on connaît bien. 8% de la masse solaire, on ne peut pas aller plus bas parce qu'on ne va pas briller, on ne va pas commencer les réactions pour pouvoir faire briller l'objet. Et puis si on descend, on est dans une zone qu'on appelle les naines brunes. Et puis si on descend, on est dans la zone planète. Mais là, la frontière, elle n'est pas claire. Donc à peu près 10 fois la masse de Jupiter.
Ah oui, ça existe.
Ah oui, oui, tout à fait, oui. Mais la question, c'est quand vous en avez une qui fait 13 masses de Jupiter, c'est une planète ou pas? Quand c'est 15, quand c'est 16, on fait quoi? Enfin voilà, donc disons qu'en général, typiquement, on met la frontière aux alentours de 10 masses de Jupiter.
Dans l'équipe de Zoom Zoom, il est clairement le plus calé en astrophysique. Et il nous l'avait prouvé sur notre spécial consacré aux ELT, les Extremely Large Telescopes, qu'il avait vachement bien réussi à prononcer.
Extremely Large, oui, parce qu'il y a un Y.
Quentin, 2 mois après ce micro AVC, vous êtes totalement remis et vous allez nous le prouver avec ce micro-trottoir arlésien, à se demander donc si vous vous êtes si remis que ça.
Extremely Large Telescope, voilà. J'étais en Arles, comme m'ont repris les jeunes gens avec qui je discute dans le TER. Je sors de la gare et je tombe sur ces deux-là qui sortent de répétition.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre-Yves, qu'est-ce que vous avez dans le dos?
Une contrebasse. C'est pas si lourd, mais c'est si gros. Et à Arles, on dit à Arles.
On dit pas en Arles?
Non.
Ah, mais ils se sont foutu de ma gueule, les mecs, tout à l'heure.
C'est pour ça, nous, on est gentils.
Eh ben, je vais dire en Arles toute la chronique pour leur apprendre à se moquer des gens de passage. Pierre-Yves et Clio connaissent-ils...
Exoplanète.
Exoplanète.
Celui qui me donne la définition, il gagne. Un accordage de contrebasse.
Ah, c'est super, parce que ça coûte cher. C'est une construction autour de la planète pour qu'on y envoie des êtres humains pendant que la première planète, elle est en train de mourir elle-même.
C'est pas mal, parce que, effectivement, exo-extérieur...
Une exoplanète, c'est tout simplement une planète qui n'appartient pas à notre système solaire.
Et en découvrant, justement, cette définition, je leur demande pourquoi ça nous fascine.
Parce que ça nous dépasse, en effet, c'est tellement... loin de nous, et ça rappelle juste qu'on est minuscule.
Tout à fait pareil, c'est la définition du sublime, c'est tellement grand que ça ne peut que nous impressionner. Mais moi ça me fait un petit peu penser à quelqu'un qui est passionné par le système solaire et qui s'est aperçu qu'il y avait des milliards de soleils dans le système solaire. Tu vois de qui je parle? Ben, c'est bonsoir. Pareil quand il parle des retraites. Ouais. Il y connaît autant que nous sur les exoplanètes, là, maintenant.
Pierre-Yves fait référence à François Bayrou. Le 7 mars, il parlait de sa passion pour l'univers.
Je suis, comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Et il y en a, si je me trompe pas, entre 2 et 400 milliards.
1000 milliards de 1000 soleils. Il s'est un peu trompé, François Bayrou. C'est comme ça, parfois on confond système solaire et univers. J'arrête maintenant cette femme, bandana dans les cheveux, lunettes de soleil miroir. Elle est libraire à Arles.
Une exoplanète, c'est une planète où on pourrait vivre, c'est ça?
Il y a un peu de vrai, mais elle n'est pas dans notre système solaire.
C'est ça. Je pense qu'on est fasciné par la possibilité qu'il y ait d'autres vies intelligentes, semblables aux nôtres.
Vous y croyez, vous?
Oui, bien sûr.
Elle y croit, elle, mais voit chez l'humain une forme de contradiction sur l'affaire.
Je pense qu'on en est absolument fasciné et qu'en même temps, on a toujours rendu ridicules les gens qui y croient. On a toujours fait en sorte de faire passer pour des andouilles ceux qui pensent que notre forme d'intelligence n'est pas la seule. Je sais pas, les choses qui existent en dehors de notre zone d'influence. Ça nous fascine, ça nous inquiète et on a envie de les voir, mais on n'a pas envie d'y croire. On a envie d'y croire, mais on n'a pas envie de les voir.
Ce couple de retraités maintenant, chaussettes, sandales et sacs bananes, en vadrouille dans Arles.
Exoplanète.
Exoplanète, je ne connais pas.
Ou une planète très lointaine.
J'espère que ce n'est pas celle d'Elon Musk, comment il s'appelle? Le fou là, des États-Unis, oui. Il veut pas aller sur celle-là. Là.
Alors là, Musk, pour ce coup-là, à moins de devenir immortel, ça m'étonnerait qu'il voit ça de ses yeux. Mais Philippe, quand même, lui réagit à ses recherches.
On peut toujours continuer à chercher, mais il ne faut pas oublier l'essentiel quoi, dans la recherche. Parce que là, je fais de la politique, mais bon, on en revient toujours à la même chose. Hein. Chercher des choses impossibles à atteindre. C'est bien joli, mais bon, nos hôpitaux sont en souffrance, il y a des gens qui crèvent la faim, il y a des priorités quand même, enfin, il me semble. C'est mon point de vue, il est ce qu'il est.
Et il est entendu, je déambule sur les pavés de la ville et me voilà face à ma dernière rencontre, intrigué par notre mot du jour.
Exoplanètes, oui, mais on les a découvertes grâce à la lumière, en général. On voit que les objets grâce à la lumière qu'ils émettent ou qu'ils freinent, un truc comme ça, non?
Elles ont peut-être déjà disparu.
C'est pas improbable.
Je lui demande s'il faut quand même continuer de chercher.
toutes ces explorations, ces recherches servent à d'autres choses inconnues pour le moment parfois. Donc il faut les faire, ça nous renseigne sur ce que c'est que la vie, la fragilité de la vie sur Terre par exemple, la probabilité qu'on soit les seuls dans l'univers connu au moment où on vit, parce que peut-être qu'il y a de la vie sur d'autres planètes, mais de la vie qui a une conscience de ce qu'est la vie, c'est une autre histoire. L'enseignement qu'on peut retirer de la vie sur Terre, c'est que la vie a une durée limitée. Hein. Donc c'est probable que s'il y a eu des civilisations sur d'autres planètes, elles soient éteintes déjà.
Elles vous intriguent quand même un peu, ces exoplanètes. On scrute le ciel à la recherche d'un ailleurs, mais à Arles, entre deux ruelles et un souffle de Mistral, je me dis que le plus grand mystère, c'est peut-être déjà d'être ici.
Conclusion métaphysique comme seul Quentin, on a le secret. Yael Nazé, vous êtes avec nous cet après-midi, vous venez d'entendre ce micro-trottoir. Il n'a pas tort ce dernier monsieur. Est-ce que c'est vrai que ce qu'on observe, c'est uniquement la lumière qui nous permet de l'observer. Est-ce que ces planètes, ces exoplanètes qu'on découvre à l'autre bout de l'univers, elles sont. Peut-être elles n'existent plus aujourd'hui ? Ou c'est plus compliqué que ça, c'est pas comme une étoile.
Alors, c'est tout à fait comme une étoile, hein. Les planètes naissent et meurent, hein. Ça, y a pas de problème. Mais la seule chose, c'est que, en fait, bon, il faut bien reconnaître que nos instruments restent quand même encore limités. Et donc, les planètes qu'on connaît se trouvent finalement pas très loin de nous. Et donc, bon, certes, leur lumière a mis quelques dizaines d'années, quelques siècles à venir, mais c'est très peu, finalement, pour la vie d'un système planétaire. Donc, on n'en est pas encore à avoir des systèmes qui seraient morts aujourd'hui, alors qu'on les voit encore. C'est tout simplement l'effet de la lumière qui nous parvient. Hein. Donc, c'est un effet assez classique. Mais c'est vrai que, là, pour le coup, elles sont un peu trop près.
Delphine dit qu'on a rendu ridicules celles et ceux qui auraient vu quelque chose. On pense aux ovnis. Est-ce que l'ufologie est prise au sérieux, quand même, par la recherche, ou pas du tout?
Alors, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle ufologie, parce que bon, il y a beaucoup de trucs différents. Nous, je veux dire, au niveau scientifique, ce qu'on va chercher, c'est des preuves de vie. C'est des planètes, enfin, voilà. L'astrobiologie est une discipline assez large. On va aussi essayer de comprendre comment la vie peut apparaître quelque part. Et donc, on observe plein de choses dans le ciel. Et donc voilà, bon, pour le moment, on n'a pas encore trouvé ça. Maintenant, je dirais que c'est vrai que côté des astronomes, cette idée d'avoir une vie ailleurs et même d'avoir une vie intelligente ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas du tout ridiculisé, qui n'a pas du tout été mis de côté. Il y a 2000 ans, on en parlait déjà. Mmh. On a au Moyen-Âge de grands personnages qui vous parlent de pluralité des mondes aussi. Donc, dire qu'on ridiculise, moyennement, parce qu'on l'a quand même beaucoup pris au sérieux depuis des milliers d'années.
On l'a entendu, ce monsieur dans le micro-trottoir qui parle d'Elon Musk. On le sait, les milliardaires de la tech ont un peu le fantasme d'aller dans l'espace. Musk a le fantasme d'aller habiter sur Mars. Ça va être possible un jour ?
Difficilement. Bah, soyons clairs, hein, la vie terrestre est adaptée à la Terre. Hein, et donc, bon, certes, on peut aller se creuser une petite grotte sur Mars.
Mais pourquoi ce fantasme alors sur Mars ?
Qu'est-ce que vous voulez ? Je sais pas. Moi, il a trop lu des bouquins de science-fiction quand il était petit. J'en sais rien.
Mais c'est l'homme le plus riche du monde et qu'il influe peut-être même sur la politique internationale et sur
Là, c'est pas une probabilité. C'est
parce
sûr
que ça,
qu'il
a influé. C'est presque plus ridicule, je pense, d'un point de vue scientifique, d'imaginer coloniser Mars en tant que civilisation plutôt que de croire aux ovnis. À la limite, pourquoi pas qu'une autre civilisation existe et vienne nous visiter. Mais aller sur Mars, nous, ça paraît vraiment débile.
Oui, c'est particulièrement débile pour deux raisons. C'est que l'idée, c'est mais s'il arrive une catastrophe sur Terre parce qu'on est trop con sur Terre, c'est vrai, mais si on envoie les mêmes avec la même technologie, désolé, mais ils seront tout aussi cons sur Mars aussi. Bon,
ça
voilà.
Va pas changer.
Et alors la deuxième chose, c'est que il a encore sorti récemment que mais c'est pour survivre à la fin du Soleil. Oui, mais mon gars, quand le Soleil arrive à la fin de sa vie, il grossit par un facteur 100. Il est aussi grand que l'orbite de Mars ou de la Terre à peu près, quoi. Donc mon gars, Mars n'est pas mieux placé à ce moment-là.
Non, il faudrait
aller
beaucoup
plus loin. C'est complètement ridicule, quoi.
C'est con de A à Z, on peut le dire.
Oui.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il s'était incliné 5-0 dans notre dernier quiz sur l'espace, un zoom zoom test consacré au fameux
Extremely large.
Quentin renouera-t-il avec une forme, même embryonnaire, de dignité dans ce quiz spécial France Inter explore l'univers ? La réponse tout de suite dans le zoom zoom test. Un quiz qui va vous entraîner aujourd'hui aux frontières du gai savoir et parfois même, comme vous allez le voir dès la première question, aux frontières du réel. Écoutez plutôt. C'était une nuit de pleine lune dans les Alpes. J'ai observé un objet horizontal extraordinairement lumineux se déplacer au-dessus de la cime des montagnes, avant d'osciller à 45 degrés pour foncer à une allure vertigineuse vers le ciel, vers le cosmos. Engin en forme de V, accélération fulgurante, boule lumineuse de couleur changeante. Les gens qui me connaissent savent que je suis très cartésien. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais exactement ce que j'ai vu. Manon Quentin, à qui doit-on ce témoignage décisif concernant l'existence d'une civilisation extraterrestre ? Pascal Légitimus sobre ? Francis Lalanne bourré ? Ah. Ou Nelson Montfort dans son état normal ?
C'est !
Ouais, je pense que c'est
C'est Nelson.
Ah, c'était super !
Bah oui ! Réponse C, c'est bien Nelson Montfort qui a vécu cette rencontre du troisième type. Il aurait pu d'ailleurs nous en parler à ce micro s'il ne nous avait pas lâchement planté à la dernière minute.
Mathieu, je suis désolé, Mathieu Christmas, j'adore votre émission Boum Boum Nem.
Et nous aussi, on t'adore Nelson, et ce quiz sur les grandes et petites erreurs de la recherche spatiale est aussi pour toi. Direction l'Australie, en 1988, le radiotélescope de Parkes capte un signal radio qui semble venir du fin fond de l'espace. Une découverte d'autant plus intrigante que les autres grands observatoires dans le monde ne détectent pas, eux, ce micro-signal. Autre curiosité, on détecte à Parkes une quarantaine en fait, d'autres signaux encore plus chelous que le premier. Le mystère restera entier, comme l'implantation capillaire de GC, jusqu'en 2015, où l'astrophysicienne Émilie Petrov découvre que tout ce raffut cosmique provenait en fait d'une famille de cacatoès à hupe jaune qui venait de nicher à proximité du télescope. Des talkie-walkie du personnel d'une piste de karting à quelques kilomètres du centre spatial. Ah. Ou du micro-ondes de l'espace détente du centre spatial.
Ah, c'est dur. C'est le cacatoès pour moi.
Ah si, ok. Je me disais que c'était impossible le micro-ondes.
J'ai l'impression que notre invité vous a fait
signer. Honnêtement, j'allais dire c'est une bonne réponse.
Après avoir rêvé un peu trop loin, Émilie Petrov finit par revenir au pragmatisme qui doit être la boussole de tout scientifique. Si, en 17 ans, on n'a jamais été capable de retracer l'origine de ces mystérieux signaux et que, fait étonnant, ils interviennent toujours durant les heures de bureau du lundi au vendredi, c'est peut-être que finalement ce n'est pas une civilisation avancée qui essaye de nous contacter, mais simplement le micro-ondes de l'espace détente qui décolle. Mais attention, top ! Direction à présent la NASA, en 2003. Douloureux souvenir pour Cyril Lacarrière, alors détaché du FBI pour une mission top priorité visant à déboucher les chiottes de la salle de contrôle. Cyril qui, hélas, une fois sa mission accomplie, abusera des généreux muffins myrtilles de l'espace détente de la NASA et s'endormira sur le mauvais bouton. Bye bye, la navette Columbia. Ce n'est pas une première, Quentin. 4 ans auparavant, la NASA, en collaboration avec la compagnie aérospatiale américaine Lockheed Martin, lance la sonde spatiale Mars Climate Orbiter, premier satellite météorologique interplanétaire, satellite qui va commencer son orbite autour de Mars, passer derrière la planète rouge et soudain disparaître à jamais. D'après vous, pour quelle raison ? Parce que la NASA faisait ses calculs en utilisant le système métrique et que Lockheed Martin utilisait le système impérial. Ou parce que la foudre est tombée à Cap Canaveral pile au mauvais moment. Ou parce que Cyril a découvert qu'il y avait aussi des brownies dans l'espace détente de la NASA.
B ! Je suis devant.
C'est la foudre qui est tombée.
C'est A alors.
Oui. Plutôt la réponse A. Mais alors donc personne n'a la bonne réponse à part notre invité. Comme dirait Cyril.
Donc, d'accord. Donc quand c'est Manon qui a la bonne réponse de l'invité, elle a le point, quoi.
Ah, et vous avez dit ?
Bon, je vous donne. J'ai dit A.
Comme dirait Cyril, de toute façon, c'est toujours la faute au roast beef. Et oui, sur ce projet commun, la NASA et Lockheed Martin ont fait fort, puisque les ingénieurs de la NASA raisonnaient selon le système métrique et Lockheed Martin selon le système dit impérial, d'où un léger problème dans les calculs. Le satellite prévu pour passer à 220 km de la planète est passé à moins de 60, explosant dans une atmosphère trop dense, une boulette à 325 millions de dollars. Tu n'es pas seul, Cyril. Enfin, on termine ce tour d'horizon des boulettes spatiales en 1988 en URSS.
Oula.
Encore un projet Objectif Mars qui part en cacahuète. La sonde soviétique Phobos échappe soudain à tout contrôle, change d'altitude, détourne ses antennes de la Terre et part non plus vers Mars, mais vers l'infini et au-delà. Pourquoi donc ? Parce qu'elle voulait échapper à la dictature de la vermine communiste ? Parce que Yuri, un contrôleur distrait, a fait une Cyril Lacarrière et il s'est trompé de bouton ? Ou parce qu'un Mars, et ça repart ?
B !
Bah oui.
Comme Yuri, Gagarine.
C'est une chanson.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Une seule lettre vous manque et tout est dépeuplé.
Yves Simon encore.
Pauvre non. Yuri. Oh. Yuri que vous entendez ici devant la cour martiale soviétique et que vous entendez ici une fois que la cour martiale a rendu son avis. Effectivement, la perte de contrôle de Phobos serait due à une erreur de frappe d'une instruction envoyée par le technicien au sol. Faut l'excuser, ça arrive au meilleur, dira Cyril. Victoire de Quentin lui.
Bah comment ?
Ah non, je suis surpris.
Ah bon ?
Bah, mais moi je suis surpris.
Ah bah non, mais c'est sûr.
Je pense qu'en régie ils n'ont pas compté, ils m'ont dit au hasard.
Je la prends quand même.
Bah oui, prenez-la.
Et merci à tous.
Bravo.
Pour une fois, soyez
bravo quand même, Quentin. L'astrophysicienne Yael Naze est avec nous cet après-midi dans Zoom Zoom, puisque France Inter, vous le savez, explore l'univers, parce que ce serait. Explore l'univers. On est pacifiste. Yael, dans votre dernier livre, Explorer le ciel, les planètes et la Terre, qui vient de paraître chez Odile Jacob, vous racontez que depuis les débuts de l'observation astronomique, les astronautes ont dû s'aventurer dans des endroits hostiles de notre planète pour pouvoir mieux observer le ciel, les astronomes et pas les astronomes. Pour quelle raison c'est dans les endroits hostiles de notre planète qu'on accède le mieux à ce qui se passe aux confins de l'univers ?
Alors en fait, tout le problème était d'avoir un point de vue différent. Différent de celui qu'on a par exemple en restant en Europe. Et donc pour ça, il fallait voyager. Et généralement, il y a quelques siècles, se déplacer.
Oui.
Disons que c'était relativement hostile un peu partout. Et donc, du coup, on se retrouvait comme ça dans des jungles, dans des montagnes super élevées, dans des trucs, enfin voilà, des trucs vraiment pas sympas, quoi. Avec de temps en temps une petite révolution ou des indigènes qui vous adoraient pas. Et donc, forcément, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes partout. Et il y en a qui sont pas revenus.
Ah oui, tout simplement.
C'est oui.
Un métier passion, comme on dit. J'ai vu que l'Agence spatiale européenne allait lancer deux missions, Plateau et Ariel, l'année prochaine et fin 2029, pour tenter de découvrir de nouvelles exoplanètes. En quoi consistent ces missions ?
Alors, de nouveau, elles vont pouvoir repasser, réétudier cette lumière de ces étoiles et justement, comme les planètes passent devant, pouvoir justement les détecter. Et alors, elles vont travailler précisément dans plein de lumières, de couleurs de la lumière différentes, donc pouvoir préciser les propriétés des planètes encore plus en détail que ce qu'on le fait aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est justement d'améliorer nos connaissances, bien sûr. Et bon, on va le dire, elles vont étudier bien sûr les planètes, mais elles vont aussi étudier les étoiles. Donc ce sont des missions qui font plusieurs choses
à la fois.
Donc quand il n'y a pas de planète, c'est pas grave, on détecte aussi pas mal de choses.
Alors vous, je vous ai présenté comme une spécialiste des étoiles massives.
Tout à fait.
Il est temps de nous expliquer ce qu'est une étoile massive.
Alors, une étoile massive, c'est simple. Le Soleil, c'est une étoile un peu minable, faut bien le dire.
Ah bon ?
Et voilà, les bonnes étoiles, ce sont les grosses étoiles qui font au moins 10 fois la masse du Soleil. Celles-là, elles vont dominer les galaxies. On va les voir de très loin. Elles sont 1 million de fois plus lumineuses que le Soleil. Elles sont beaucoup plus chaudes, elles vont exploser en supernova, elles font des trous noirs, elles font des étoiles à neutrons, elles font plein de trucs comiques. Et donc, j'ai essayé de les étudier parce qu'elles sont en fait finalement assez mal connues. Il en est très peu et en plus, disons qu'elles meurent aussi très vite.
Elles doivent exploser, ça doit être un beau bordel.
Ah, ça fait un beau bordel. Elles deviennent alors aussi lumineuses qu'une galaxie entière. Donc,
c'est pas rien.
C'est pas rien.
Qu'est-ce que vous répondez, on l'a entendu dans le micro-trottoir, mais à celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent pourquoi on dépense autant d'argent dans la recherche spatiale plutôt que de régler nos problèmes sur Terre ?
Alors, je vais faire une réponse en deux temps. La première chose, c'est que, effectivement, ce sont des connaissances fondamentales qui n'ont pas d'application directe, mais globalement, une émission de radio, un film, un match de foot, ça n'a aucune application non plus. C'est pas ça qui va vous faire manger ou qui va vous faire boire.
C'est donner des informations.
Donc l'idée, c'est que en fait, si vous regardez tout ce qui est art, tout ce qui est culture, tout ce qui est sciences fondamentales, ça vous apporte des informations qui effectivement ne sont pas directement applicables. Je crois que c'est le propre de l'humain d'être curieux et donc ça me paraît un peu dommage d'éliminer ça. Et la deuxième partie, c'est que vous savez, on fait on élimine souvent les budgets de ce genre de choses. Mais figurez-vous que quand on les élimine, c'est bizarre, mais ils ne passent pas pour la fin dans le monde, la paix et ce genre de choses, malheureusement.
Quentin. Est-ce qu'on pourra atteindre un jour une exoplanète ? J'essaie de me projeter, mais un vaisseau qui va très très vite, presque à la vitesse de la lumière, mais il faudra quand même des centaines d'années-lumière. Donc une colonie qu'on envoie comme ça, qui se reproduit de génération en génération et qui arrive enfin à son but. C'est un peu de la science-fiction, mais est-ce que ça pourrait être un pas vers une exoplanète ?
Ça pourrait, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux générationnels. Oui, bien sûr. Et on a eu un certain nombre de films de science-fiction qui parlent de ce genre de trucs. Alors, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Il y a encore eu Mickey 17, il n'y a pas longtemps, comme film qui vous montre encore un exemple. C'est quelque chose de pas évident parce que vous avez évidemment un pool génétique assez limité dans un gros vaisseau comme ça. on ne sait pas non plus quels sont certains effets à long terme. On est fait pour de la gravité, on est fait pour un certain type de choses. Et donc là, c'est compliqué. Et donc voilà, bon, oui, pourquoi pas, mais oui, actuellement, on en est encore loin, soyons clairs.
Et justement, il y a eu des études qui ont montré justement que le corps humain dans l'espace, sur la longue durée, c'était une mauvaise chose pour le corps humain. Donc si on veut partir colonisé d'autres planètes, ça va être compliqué, ne serait-ce que d'être dans l'espace, en fait.
Même aller vers Mars, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même 6 mois de voyage. C'est pas comme la Lune, hein, où en 3 jours, bah, on était là, tranquillos, et puis on revient, tout va bien, quoi. Là, 6 mois de voyage dans des conditions, bah, on voit bien comment les astronautes sont quand ils reviennent, hein, de 6 mois sur l'ISS, c'est compliqué
ils
quand même
amaigris,
pour eux.
Oui.
Or là, sur Mars, il faut, enfin, il y a de la gravité sur Mars. Certes, elle est plus faible que la Terre, mais il y en a quand même. Et il faut tout de suite être, je veux dire, prêt à faire plein de trucs. Donc ça risque d'être assez compliqué de faire une mission vers Mars.
Je crois que Elon Musk nous écoute, il est désemparé. Vous écoutez France Inter et je ne suis pas en mesure de vous donner l'heure car je crois qu'on a un petit pépin technique.
Booster, vous confirmez l'arrêt du moteur central?
Confirmé, tout indique qu'on l'a perdu, contrôle.
Merde alors, bah, espérons que ça tienne quand même jusqu'à 18h. Maintenant, l'heure de découvrir l'autre personne à suivre.
Oui, je vous présente Sophie Adenau. Elle a 42 ans, elle est française et c'est une astronaute. Sa passion pour l'espace, elle la doit à une autre femme. En 1996, elle voit à la télévision l'astronaute française Claudie Aigneret s'envoler pour la station spatiale Mir. Et c'est la révélation. Elle veut faire pareil. 60 ans plus tard, son rêve va donc se réaliser puisque l'année prochaine, elle va rejoindre la station spatiale internationale pour une durée de 6 mois. Elle sera donc la deuxième astronaute française à le faire. Depuis son enfance, Sophie Adenau a tout mis en place pour devenir astronaute, notamment dans ses études. Elle est diplômée de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, même école que notre ami Thomas Pesquet, qu'on embrasse évidemment. Puis elle intègre le prestigieux MIT aux États-Unis. Et puis alors, tout s'enchaîne. En 2005, elle rejoint l'armée de l'air française où elle devient pilote d'hélicoptère. Entre 2008 et 2012, elle effectue des missions de recherche et de sauvegarde à bord d'hélicoptères. Puis en 2018, Sophie Adenau devient la première femme pilote d'essai sur hélicoptère en France. Elle accumule plus de 3000 heures de vol sur 22 types d'hélicoptères différents. En 2023, elle est promue colonelle. Pour Sophie Adenau, le rêve se rapproche donc. Elle est sélectionnée par l'Agence spatiale européenne pour intégrer le corps des astronautes dans une équipe de 17 personnes. Après un an de formation au sein du Centre européen des astronautes de Cologne, elle obtient sa certification le 22 avril 2024. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle est désignée pour partir à bord de la station spatiale internationale prévue pour le printemps 2026. Actuellement, elle est donc en pleine phase d'entraînement. Son instructeur français a dit au magazine Le Point que le plus gros challenge des astronautes, c'est de s'entraîner dans un bassin de plongée aux sorties extra-véhiculaires. Donc, je l'ai lu que c'était une sorte de piscine qui permet de simuler l'apesanteur. Puis, il navigue aussi sous l'eau, au milieu d'une maquette de la station spatiale internationale pour simuler des situations de travail dans l'espace. Toujours selon son entraîneur, Sophie Adenau s'en sort avec brio. Ah. On a hâte de la voir décoller vers l'infini et l'au-delà.
Merci beaucoup Manon et cocorico pour Sophie Adenau. Oui. Yael Nazé, est-ce que vous êtes aujourd'hui docteur en astrophysique? C'était votre rêve ou vous rêviez, comme toutes les petites filles qui aiment l'espace, de devenir astronaute plutôt?
Ah non, pas du tout astronaute, parce qu'il faut une vue super bonne, moi de toute façon, c'est foutu. Mais moi, c'était vraiment plutôt les étoiles et tout ça qui m'intriguait. Donc c'était l'astronomie, pas du tout l'astronautique. Et encore maintenant, on me demande souvent, ouais, tu voudrais pas aller dans l'espace ou quoi?
Non, vous laissez les autres prendre des risques.
Tant qu'il n'y a pas un USS Enterprise ou un Faucon Millennium pour aller voir ce que...
Ah, je suis bien d'accord avec vous.
Mais pour aller voir ce que mes étoiles font, franchement, juste aller faire quelques kilomètres.
Oui, aller sur la Lune, ça n'a aucun intérêt.
Voilà, pour moi, c'est trop près.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il le sait, il lui faudra répéter une bonne cinquantaine de « Je vous salue Marie » en se flagellant la croupe avec un rameau d'olivier pour que le Seigneur lui pardonne d'avoir participé à une émission sur les exoplanètes. Pour notre rédacteur en chef adjoint jésuite Pierre Courade, tout ce qu'on a raconté cet après-midi n'est rien d'autre qu'un immense blasphème, car la Terre, il n'y en a qu'une, elle est plate, avec des monstres à chaque bout. Pierre Courade, vous allez pourtant nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et peut-être Mathieu qu'à chaque bout de notre planète quelque part se cache un Quentin lui sorti de la soupe aux choux. Voilà, quoi qu'il en soit, formidable voyage cet après-midi aux confins de notre univers avec l'astrophysicienne Yael Nazé. Elle nous a expliqué comment les scientifiques traquent les planètes à l'extérieur de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle les exoplanètes. La discipline est assez récente. La première est découverte en 1992. Aujourd'hui, on en connaît plus de 7500, un nombre de découvertes exponentielles au fil des progrès techniques. Il faut dire que trouver une exoplanète dans notre univers revient à trouver un sourire sur le visage de Cyril Lacarrière. Elles sont très compliquées à observer, car comme toutes les planètes, elles n'émettent pas de lumière. Ainsi, pour les trouver, il faut observer une étoile. Et si sa luminosité baisse, c'est qu'une planète passe devant et provoque une sorte d'éclipse. Difficulté, certaines de ces exoplanètes ne tournent pas autour d'une étoile. Ce sont des planètes nomades. Et finalement, et si parmi ces innombrables exoplanètes, il y avait une planète habitable ? On avance, on progresse, mais on n'a toujours pas découvert de petits hommes verts, nous a dit notre invité. D'ailleurs, on ne sait pas encore précisément quel est le cocktail chimique idéal pour favoriser la vie. Pour Manon, c'est simple, ce cocktail, c'est évidemment le Sex on the Beach.
Merci Pierre.
Je crois j'adore.
Une ligne de votre CV m'avait échappé quand je vous ai embauché en août dernier, lié à l'astronomie, non ?
Oui, absolument. J'ai été vice-président du club d'astronomie de Lourdes, que je salue, l'astroclub lourdais.
Vice-président.
Il n'y avait pas grand-chose à faire.
Et pas président du vice.
Oh oui, mais ça, c'était autre chose. Merci beaucoup, Pierre Courade. Face à vous, un nouvel humoriste dans Zoom Zoom Zen. C'est comme quand SpaceX lance un nouveau satellite. C'est un peu qui tout double. Aujourd'hui, il vient nous parler d'exoplanètes perdues pour perdues. Il a mis un t-shirt de la NASA pour faire genre, il comprend quelque chose. Yacine Bellous, c'est à vous.
Alors d'abord, moi, je tiens à m'excuser vraiment sincèrement auprès de notre invité Yael Nazé, parce que ça doit faire bizarre pour elle d'entendre des gens comme moi dire n'importe quoi sur votre sujet, qui est, je le rappelle, l'astrophysique. Moi, j'ai eu mon bac avec 600 maths, donc je ne devrais même pas être dans la même pièce que vous. Je ne devrais pas avoir ce droit, mais en fait, on est en 2025. Les temps ont changé, tout le monde a le droit de parler de tout. Il y a des anciens commentateurs sportifs, ils parlent sérieusement de géopolitique. Moi, en tant qu'ancien capoeiriste, je peux parler de la conquête spatiale. Alors, c'est partie, les exoplanètes. Alors, on a découvert la première en 95. Depuis, on est surexcité. Comme on l'a dit plusieurs fois, on a envie d'en trouver une habitable. Ça nous intéresse vachement, les autres planètes, parce que faut le dire, en ce moment, ça se passe pas super bien avec notre propre planète. On fait tout de travers. On est une espèce indisciplinée, violente, pollueuse. Et on est dans le déni. On dit, promis, je vais faire gaffe à la nature. Oui, c'est super, l'écologie. Tout en jetant un mégot de clope allumé dans une forêt sèche. Faut être honnête, si la planète Terre vivait en couple, ça fait longtemps qu'elle aurait changé les serrures. Je comprends la planète parce que les humains, en fait, on est les relous de l'univers. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que personne répond à nos messages. Hein. On envoie plein de messages. On les envoie partout dans tout l'univers et on nous laisse en vue. On n'est pas gérable. Personne n'a envie de parler avec nous et ça ne nous empêche pas de continuer. On cherche des planètes de rechange. On regarde, oh, une super exoplanète, K2-18b. Oh, regarde, celle-là, elle est vachement bien, V12-43x. Mais en fait, c'est comme une appli, quoi. Personne n'a envie de parler avec nous, évidemment, parce que nous, on est les relous. Depuis 95, on a fait 7475 exoplanètes observées. Depuis 95, 7475 swipe à droite et toujours aucun match. Parce qu'on est les charreaux de la Voie lactée. Voilà ce qu'on est. Et on va rester seuls. Et c'est bien fait pour nous. Personne ne nous calcule. Et c'est normal, on n'est pas attirant. Regardez-nous. Non, mais on essaye de communiquer. On essaye d'envoyer des messages, mais c'est des trucs de débiles qu'on envoie dans l'espace. C'est l'équivalent cosmique de salut, ça va l'espace. Eh, on est les humains, personne veut nous parler. Salut, emoji, coucou qui fait, coucou. C'est ridicule. La sonde Voyager 1 en 1977, c'était censé être notre big message à l'univers. Et on a envoyé en fait une représentation de nos corps tout nus. Le truc de Gogol. Regardez, c'est nous, on n'a pas d'habits. Vous voulez être nos copains ? Littéralement, c'est une dick pic spatiale non désirée. C'est normal qu'on n'ait pas de retour. Voilà, franchement, on est qui pour espérer reconstruire une vie ailleurs ? C'est vrai, on a cramé notre propre planète en 2 siècles. Pourquoi elle voudrait de nous l'exoplanète K2-18b ? C'est un monde extraterrestre, pas un refuge pour civilisation toxique. Ça se prend pour qui ici ? Hein ? On a envie de croire. On a envie de croire que ça va aller mieux. On a envie de croire qu'on va trouver quelqu'un d'autre, une conscience extraterrestre qui va peut-être nous rassurer et nous dire « Vous savez les humains, c'est pas grave d'avoir détruit 80% des insectes de votre planète en moins de 30 ans. Ça nous arrive aussi à nous tout le temps. » Mais non, ça va pas se passer. Alors pour conclure, je dirais que ouais, on peut continuer à explorer, mais il faut arrêter de faire genre « On est les héros de cette histoire. » Nous, on est les méchants de l'histoire. On est les bourrins. On est les climato-sceptiques en claquettes chaussettes. Et si on veut un jour mériter une autre planète, faudra commencer par présenter ses excuses à celles qu'on a déjà. Merci beaucoup. Merci à elle.
Merci beaucoup Yacine Bellou-Ciel, écroulé de rire sous la table, c'est pour ça que vous ne la voyez plus à la
c'est
caméra.
Incroyable.
C'est la seule unique raison, c'est la première fois qu'un humoriste fait ça à une invitée. C'est du jamais vu Yacine Bellou, je pense qu'on va vous retrouver très bientôt dans une zone zen.
Merci.
Merci à vous, merci Yael Nazé, c'est de sortir de sous la table. Grâce à vous, on sait désormais ce qu'est une exoplanète. Je rappelle votre dernier livre, Explorer le ciel, les planètes et la Terre, les grandes expositions des astronomes qui viennent paraître chez Odile Jacob. Je l'offre à Cyril parce qu'il ne s'intéresse pas au sujet de cette émission.
C'est dommage.
Zoom, zoom, zen.